BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Et donc c'est l'actualité ce soir, c'est tombé il y a environ une heure et demie, cette décision de justice à New York. Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de FTX, un star déchu des cryptos. SBF comme on l'appelle, condamné à 25 ans de prison, entre autres pour blanchiment, fraude et conspiration. Il y a 7 chefs d'inculpation. On va aller à New York dans un instant, puis on parlera bien sûr tout ça avec nos experts dans un quart d'heure.
Oui, on va aussi reparler des annonces de Gabriel Attal hier soir au sujet de l'assurance chômage. Alors, y a-t-il eu véritablement des annonces? Eh bien, c'est la question qu'on posera à nos experts tout à l'heure. On parlera aussi du géant chinois Xiaomi qui se lance dans le véhicule électrique. Ça va bouleverser le paysage du secteur. Et puis, l'EPR de Flamanville, et oui, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. EDF, ce matin, était plutôt rassurant en disant que le réacteur serait opérationnel d'ici la fin de l'année.
On va pas dire que c'est gagné, mais enfin, en tout cas, les nouvelles étaient bonnes ce matin. Qui sera avec nous pour parler de tout ça? Nathalie Janson va revenir, bien sûr. Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico sera là. Et Franck Dedieu, le directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc l'actualité nous emmène ce soir aux États-Unis où Sam Bankman-Fried, l'ancien patron d'FTX, star déchu des cryptos, vient d'être condamné à 25 ans de prison. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. 25 ans, c'est quand même moins que ce que le procureur avait requis, Antoine.
Oui, 25 ans de prison, c'est une peine moins sévère que prévu. Le procureur avait réclamé le double et sur le papier, SBF risquait jusqu'à 110 ans derrière les barreaux. Alors tout à l'heure, la parole a été donnée une dernière fois à la défense. Sam Bankman-Fried a présenté des excuses. Cette faillite me hante encore tous les jours, dit-il. Ses avocats, eux, avaient demandé au juge de se montrer plus clément. Ils espéraient une peine limitée à 6 ans de prison. Ils présentent SBF comme un jeune entrepreneur un peu geek qui a certes commis des erreurs, mais sans mauvaises intentions. Ça n'est pas Bernie Madoff, selon eux. Le problème, c'est que cette ligne de défense n'a pas tenu face aux témoignages accablants de ses anciens collaborateurs. Ils ont décrit comment la star des cryptos avait siphonné l'argent de ses clients pour spéculer à son propre compte et mener la grande vie entre jet privé et villa de luxe aux Bahamas. Au total, Bankman-Fried a détourné plus de 8 milliards de dollars. Le juge dit que SBF a franchi la ligne rouge à plusieurs reprises et en toute connaissance de cause et que cette peine de prison, qui est quand même l'une des plus lourdes jamais infligées un criminel en col blanc aux États-Unis est avant tout destiné à l'empêcher de récidiver.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington pour BFM Business, à l'empêcher de récidiver et puis bien sûr faire un exemple dans ce secteur des cryptos toujours absent du point de vue régulation. On en parlera avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité en France, il y a donc cette réunion cet après-midi à Bercy avec Bruno Le Maire, avec Thomas Cazenave, avec des parlementaires de tous bords pour discuter des moyens de trouver de nouvelles économies pour cette année, mais aussi à commencer à brainstormer sur le budget de l'année 2025. Et puis autre gros dossier qu'on suit de près à Bercy, c'est le dossier Atos. Vous savez qu'il y a 8 jours, on nous disait, je cite, qu'une solution nationale serait construite autour des activités stratégiques du groupe. Le patron de Thalès, Patrice Ken, l'a redit ce soir sur BFM Business. Il n'est pas intéressé par les activités cybersécurité d'Atos. Écoutez.
Nous, on a mis 10 ans pour construire un pôle de cyber de produits. C'est ça notre priorité stratégique. Et donc, je ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité de ce que fait Atos. D'ailleurs, je ne le ferai certainement pas à l'antenne. Hein, mais c'est simplement, ça ne correspond pas à notre stratégie. C'est pour ça que j'ai dit effectivement à plusieurs reprises que ça ne nous intéresse pas. D'un point de vue industriel, ce n'est pas la stratégie que nous avons suivie et que nous comptons poursuivre dans les années à venir.
Mais si l'État vous demande d'y aller, vous irez. Et si Dassault vous demande d'y aller, vous irez.
On ne va pas spéculer et si. Non. Je vous réponds d'un point de vue industriel et stratégique. Ce n'est pas dans notre stratégie que d'aller vers ces domaines de cyber-services.
Voilà, Patrice Ken, le PDG de Thalès, tout à l'heure au micro d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, encore une journée absolument épouvantable pour le titre Casino, qui était suspendu hier de cotation. Vous savez que les nouvelles équipes, les nouveaux dirigeants prenaient leur marque au sein de l'entité. Le titre a dégringolé de 63%. À la Bourse de Paris, l'action Casino vaut à peine ce soir 4 centimes à la Bourse de Paris. Et puis, 19h05, c'était attendu, Xiaomi, numéro 3 mondial du smartphone, débarque dans le véhicule électrique. Il a présenté ce matin son premier grand modèle à Pékin et vu le discours tenu par son patron, on comprend que Xiaomi n'est pas là pour faire de la figuration. Justine Vassog nous raconte ça.
Nous voulons offrir aux conducteurs de Tesla une meilleure voiture. Le patron de Xiaomi, Lei Jun, n'y est pas allé par quatre chemins. La SU7, il l'a répété à l'envi durant les deux heures qu'ont duré sa présentation. Bat la Model 3, l'une des voitures phares d'Elon Musk, sur tous les plans, ou presque. La SU7 est plus rapide, a plus d'autonomie, 700 km contre 560. Elle est surtout moins chère, 27 000 euros pour la voiture de base, quand une Model 3 en vaut 31 000. Des tarifs qui ne concernent pour le moment que le marché chinois, sur lequel Xiaomi entend se concentrer. Pour le moment, il faudra attendre 2 ou 3 ans avant de se lancer à l'international, a prévenu Lei Jun. S'attaquer à la Chine en pleine guerre des prix n'est déjà pas une mince affaire avec son premier modèle. Lei Jun a d'ailleurs admis qu'il perdait de l'argent. Au premier rang, lors de sa présentation, étaient installés de nombreux constructeurs chinois. Ils n'ont rien perdu du message de Xiaomi qui vise la cour des grands. Les premières SU7 seront livrées fin avril.
Justine Vassogne, et puis on voulait redire un mot bien sûr de ce qui s'est passé avant-hier à Baltimore avec l'effondrement du pont Francis Scott Key. On sait que les corps de 2 des 6 personnes qui étaient toujours portées disparues ont été repêchés la nuit dernière. On voulait en reparler parce que des chiffres commencent à circuler. La fermeture du port qui découle de cet accident pourrait se chiffrer en milliards de dollars. C'est-à-dire la plus grande perte d'assurance maritime jamais enregistrée. Alexandra Paget.
Des milliards de dollars de sinistres, selon le patron de la Lloyd's de Londres, qui assure une partie des 77 entreprises exposées, cette catastrophe pourrait entraîner la plus grande perte d'assurance maritime jamais enregistrée. Un montant supérieur au record de pertes assurées lors de la catastrophe du paquebot de croisière de luxe Costa Concordia. En 2012, certains analystes avancent le chiffre de 4 milliards de dollars. Les experts de Barclays évoquent 1,2 milliard pour les dommages causés au pont à lui seul, entre 350 et 700 100 millions pour les indemnités des victimes et familles des victimes et probablement des centaines de millions de dollars pour les perturbations commerciales causées aux entreprises clientes des infrastructures portuaires pour le fret. Enfin, la fermeture du port pendant un mois seulement pourrait entraîner une perte totale de 28 millions de dollars pour l'État du Maryland, selon l'analyse du cabinet Implant. AXA, en revanche, ne s'attend pas à des pertes significatives liées à l'effondrement du pont à l'échelle du groupe, mais continue à suivre la situation de près.
Alexandra Paget, puis beaucoup plus léger pour finir, on voulait vous dire un mot de votre vie au bureau. Vous savez que ça fait un moment qu'on vous raconte que les entreprises font tout pour ramener un petit peu les entreprises dans l'open space. Mathilde Chaminade est allée faire un tour au salon Workspace Expo à Paris. Là-bas, on vous montre des innovations concrètes censées redonner envie de faire du présentiel, comme on dit. Reportage.
Grâce à cette tablette réglable en hauteur, on offre la possibilité aux collaborateurs de travailler assis, debout et d'adapter en fonction de leur taille et de leur morphologie la hauteur de la tablette à leurs besoins.
Christophe Dulin, directeur général de BlablaCube, est venu commercialiser ses modèles de cabine insonorisée.
L'idée, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que les gens reviennent au travail, mais leur proposer un environnement nouveau où ils trouvent tout l'épanouissement possible.
Ces cabines sont le produit phare du salon. Ventilées, équipées d'écrans, made in France, individuelles ou plus spacieuses, elles sont sur tous les stands. Autre produit qui se généralise, le bureau réglable qui permet de travailler debout, comme celui qu'expose Rémi Payeur de Home & Office Concept.
Je vais vous présenter avec juste une impulsion de la main en fait, pour monter ou descendre le bureau.
Plantes vertes, matériaux naturels et couleurs douces, tout est fait pour favoriser le bien-être des salariés. Pour Laurent Botton, le directeur de Workspace Expo, ces initiatives révèlent un changement profond.
Le collaborateur aujourd'hui est de plus en plus traité comme un client interne. C'est la notion d'hospitality.
Du mobilier qui ne suffira pas à convaincre tout le monde. Selon une étude récente de l'APEC, la moitié des cadres français se disent prêts à démissionner si leur entreprise supprime le télétravail.
Voilà, comme quoi il y a encore du boulot, Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, quasiment inchangée ce soir, le CAC 40, 8205 points. Bonsoir Aude Kersulec.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps?
Des marchés qui sont complètement à l'arrêt, hein. Pas de tendance du tout du côté de Wall Street. Le Nasdaq qui recule très très légèrement et le Dow Jones et le S&P en hausse de 0,05%. On est attentiste à ce qui va se passer demain, la publication de l'indicateur PCE, l'indicateur d'inflation américaine. Alors pourtant, les marchés seront fermés fermée hein, pour cause de Vendredi Saint. C'est une tradition sur les marchés. Wall Street rouvrira lundi, mais il y a quand même des publications et celle-ci, elle est attendue. Elle devrait être en légère hausse hein, par rapport au mois précédent. On est attendu à plus de 2,5%, mais ça a été dit hein, par Jérôme Powell la semaine dernière, donc ça devrait être anticipé. Néanmoins, ça provoque de l'attentisme. On n'a pas d'actualité non plus marquante du côté des entreprises, donc pas franchement de catalyseur. La tech qui est en léger repli, Nvidia notamment qui était en baisse suivant sa clôture d'hier. Le S&P tout de même qui avait quand même connu un record hein, hier en clôture, donc il n'aura pas rien fait de la semaine. Et puis pour rappel, la croissance américaine a elle été révisée à la hausse hein, tout à l'heure à 3,4% pour le quatrième trimestre de l'année. C'était la dernière estimation et c'est assez rarissime hein, qu'on révise les chiffres lors de cette dernière estimation, mais c'est encore une preuve que l'économie américaine est florissante et qu'il n'y a pas forcément d'urgence à baisser les taux, comme l'a dit un gouverneur de la Fed hier, no rush to cut.
Merci beaucoup Aude Karsulek, 19h11, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Beaucoup de choses encore ce soir, l'ancien patron de FTX, donc condamné à 25 ans de prison. Gabriel Attal qui n'est pas vraiment sorti du bois finalement sur sa réforme de l'assurance chômage, et puis des bonnes nouvelles comme quoi tout arrive du côté de l'EPR de Flamanville. On va pas dire que c'est gagné, mais qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres, à tout de suite.
FM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, bientôt 19h15, les experts du soir sont là. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir
Audrey
à tous.
Audrey Tcherkov avec nous jusqu'à 20h, évidemment. Puis nos experts qui sont là. Franck De Dieu, bonsoir Franck. Bonsoir. Bienvenue, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Avec le numéro. Ah bah vous l'avez, tiens.
Ah bah voilà. La montre,
qu'est-ce
cette
qu'on
une.
Raconte, Franck, cette semaine.
Les va-t-en-guerre, les politiques, les médias, les experts qui ont une volonté d'aller sur le terrain, de défier la Russie. Alors on peut évidemment souhaiter que l'Ukraine s'en sorte, on peut évidemment l'aider, on peut évidemment l'armer. Mais de là à aller, c'est un argument qui se dispute, se discute, et c'est ce que nous faisons.
Bien, c'est-à-dire donc cette semaine,
c'est en kiosque.
Chez Marianne, Nathalie Janson est revenue. Rebonsoir Nathalie, professeure à la Business School. Et Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste Atlantico. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Bienvenue. Donc ces décisions de justice, on a commencé à débroussailler tout ça avec Nathalie tout à l'heure. Sam Bankman-Fried, donc ancien patron de FTX, star déchu des cryptos, qui vient d'être condamné à 25 ans de prison. Il y avait 7 chefs d'inculpation, entre autres fraude, blanchiment et conspiration. Accusé, je rappelle, d'avoir détourné 8 milliards de dollars issus des fonds de ses clients entre 2019 et 2022. Vous dites quoi ce soir ? Est-ce que c'est un procès quelque part salutaire ? Il fallait faire un geste, il fallait donner une leçon dans ce secteur qui est toujours dénué de toute régulation. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Jean-Marc ?
Je ne commande pas les décisions de justice, comme on dit.
D'accord.
Oui. Mais non, si ça permet de mieux faire connaître les risques qu'il peut y avoir sur le Bitcoin, non pas simplement sur le Bitcoin, mais l'utilisation parallèle ou frauduleuse qui peut en être faite en dehors des systèmes de régulation, c'est bien. Mais bon, je pense que la fraude est vraiment frauduleuse. Il a pas.
Ah ben bah ça, aurait, c'est, il aurait ça
pu,
c'est clair.
Il aurait pu d'ailleurs faire ce genre de fraude avec, ailleurs avec d'autres monnaies. C'est un deuxième Madoff.
Oui. Hein. Mais il a jeté quand même le discrédit sur tout un environnement qui commençait à acquérir une certaine crédibilité, une certaine respectabilité.
Oui, enfin, il est quand même accusé de fraude, de conspiration, oui. De blanchiment. Il a quand même détourné quasment l'ensemble des fonds déposés par les clients de FTX pour couvrir des transactions et des placements qui étaient jugés largement douteux pour sa propre société d'investissement. C'est une vraie perversion du système.
Mais qui a été, qu'il a investi dans l'immobilier. Donc je pense qu'on va récupérer une partie. Hein.
Oui, oui, de toute façon, il récupère une forte partie de ce qu'il a, de ce qu'il a détourné.
6,4 milliards de dollars récupérés en numéraire.
Voilà, c'est ça. Donc, et en immobilier. Parce qu'on va vendre l'immobilier.
Et donc, c'est ce qu'il a toujours dit. Hein. Il a toujours défendu qu'il allait rembourser tout le monde.
Oui.
Mais voilà. Mais parce qu'effectivement, ce qu'on oublie souvent dans les affaires bancaires ou financières, c'est qu'en fait, souvent, on récupère au fur et à mesure. Il y a rarement des pertes sèches.
Sur Madoff, il y a eu des récupérations.
Oui, ah oui pareil. Hein. Oui, oui. C'est, en fait, on récupère très souvent.
Ouais, le problème, les montants n'étaient pas les mêmes. Pour Madoff, c'était 65 milliards. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il
c'est pour ça qu'il a écopé d'une.
Exactement.
Franck, qu'est-ce que vous dites ? Un procès pour l'image, un procès pour la leçon pour...
Alors, ça met en valeur deux enseignements. Le premier, c'est que il y a au départ, même si vous avez raison, Jean-Marc, quelque part, la fraude aurait pu porter sur d'autres supports. Il se trouve que, tout de même, ça porte sur
un crypto.
Une monnaie qui est virtuelle. Et moi, j'ai toujours, quelque part... Vous savez, c'était Jean Bodin qui disait « La nature fait les métaux, le roi fait la monnaie. »
Oui.
La monnaie doit être le reflet d'une volonté étatique, d'un pouvoir souverain, quelque chose qui est le reflet d'une confiance. Pour refléter la confiance, c'est vrai que ce genre de personnage l'entame. Deuxièmement, c'est aussi, ça dit quelque chose sur les valeurs américaines. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous considérez que la libre entreprise, que le libre commerce, que le désir de faire fortune, etc., toute cette mythologie américaine ne peut reposer que sur un appareil de sanctions à l'égard des contrevenants. Et nous, ça peut nous sembler un petit peu fort dans la mesure où ce sont des peines qui touchent aux criminels, à des...
Oui, ouais,
là, il s'agit d'une fraude financière, mais d'une fraude financière de très grande ampleur. Et effectivement, toute la crédibilité du système américain et du marché régulé américain doit être fondée sur quand même la peur du gendarme.
Oui, avec cette question, à partir du moment en effet où les clients sont susceptibles de récupérer leur mise, est-ce que ça veut dire qu'il les a volés ou non ?
Non, mais enfin, il les a trompés.
Il les a trompés. Non, mais je vous pose cette question parce que c'est quand même toute la défense.
Il y a une tromperie. D'autre part, on ne va pas considérer qu'ils vont récupérer la totalité de leurs gains. Enfin, c'est de leur
non, pas
avoir.
Des gains. Non, leur... Si. Là ça sera, on sera quasiment au remboursement total.
Mais qui va payer alors la suite? Parce que c'est... Qui...
Non, mais la promesse qu'il avait délivrée d'une augmentation et de faire fortune ne sera pas délivrée de toute façon.
Oui, mais ils récupéreront leur mise.
Dans leur intégralité?
Non. Je crois pas.
En tout cas, ça approche. Il y a quand même un moment.
Il va y avoir des valorisations.
C'est ce que la défense dit. Hein, la défense s'engage à ce qu'en effet, aucun client.
Et il s'est toujours engagé depuis le début où, il a vu que c'était terminé pour lui. Ouais. C'était sa ligne de défense.
Quand vous regardez son train de vie et la façon dont il a vécu, les choses qu'il a achetées, il a quand même dû piquer dans la caisse pour pouvoir payer tout ça.
C'est tout le secteur des cryptos, encore une fois, qui a failli être balayé il y a 18 ans. Cette affaire n'a que 18 mois, la chute de FTX, c'est fin 2022.
C'était novembre 2022. Et en même temps, quand on regarde les derniers chiffres, en effet, ça n'a absolument pas entaché l'essor.
Non, parce que pour les puristes des cryptos, c'était la partie qu'ils n'aimaient pas, c'est-à-dire c'était la centralisation dans un monde décentralisé. Donc, c'est pas la partie la plus noble pour les crypto-fans. Donc, pour eux, ça les a pas surpris dans la mesure où c'était l'importation de méthodes de la finance traditionnelle qui se base sur l'endettement qui était en fait traduite dans le monde crypto.
Moi, je suis quand même inquiet du développement des cryptos et de la façon dont la nouvelle génération, notamment les jeunes et même les très jeunes, s'intéressent à la crypto dès qu'ils ont un peu d'argent de poche.
On voit la question de la régulation complètement.
50 ou 100 euros, moi j'ai des questions, on m'a crié là-dessus. Hein. Est-ce qu'avec 100 euros je peux avoir une crypto? Je dis, tu vas avoir du mal à même acheter une parcelle de bitcoin.
Vous n'investissez pas, vous, Jean-Marc?
Moi non. Parce
que vous achetez des ETF qui sont indexés sur les
performances des cryptos. J'ai beau ne pas être aussi souverainiste que notre ami Franck, je n'investis pas dans les.
Mais vous êtes tout de même favorable à ce que la monnaie soit le reflet de la Banque Centrale.
Je suis favorable à ce que la Banque Centrale garantisse et soit assureur en dernier ressort de la circulation monétaire.
Bien, c'est un moment historique puisque nous sommes d'accord.
Non, je ne serais pas d'accord, évidemment, mais
c'est heureusement, parce que sinon, c'est dans la boîte.
Ce qui est très intéressant, puisqu'on est dans ce bain, c'est que l'Amérique, les États-Unis, s'affranchissent de ça, puisqu'ils délivrent des dollars dans des proportions qui sont inconsidérées par rapport à leur propre valeur. L'Amérique est le pays le plus endetté du monde, avec une circulation de dollars dans lequel tout le monde a confiance, jusqu'au jour où ça se cassera.
Allez, voilà pour SBF, parce que c'est son petit nom, SBF.
C'est son petit nom.
Pas de sel, effectivement, condamné à 25 ans de prison tout à l'heure à New York.
Allez, maintenant on parle de la réforme de l'assurance chômage, puisque Gabriel Attal s'est exprimé hier soir à la télévision. Alors, y a-t-il eu, je vous pose la question, de vraies annonces? Parce que le Premier ministre a quand même renvoyé les grandes décisions à plus tard, même si, il a quand même avancé une piste qui n'est pas une grande surprise, c'est la baisse de la durée d'indemnisation, Guillaume, de 18 à 12 mois.
Ah, il n'y a pas d'autres curseurs, mais enfin, il a fait que les énumérer. Écoutez ce que disait ce matin après tout ça, le patron de la CPME, François Asselin, qui dit on est sur des mesurettes. Il dit on est sur des mesurettes parce que globalement, il n'y a toujours pas de stratégie dans cette histoire. Écoutez.
Ce qu'il manque dans la prise de parole du Premier ministre, c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique. C'est-à-dire que les petites mesures, allez, on va toucher à l'assurance chômage.
C'est une petite mesure.
Toucher à l'assurance chômage,
c'est une petite mesure.
À l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays, oui, c'est une petite mesure, comme la réforme des retraites que nous avons, nous, accompagnée, pour des raisons très objectives, eh bien, est une réformette, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans la situation où nous sommes, bien évidemment, si on veut s'en sortir, nous attendons, nous, à la CPME, un plan d'ordre stratégique où on redéfinit quelle doit être l'action de l'État, quelle doit être l'action publique. Ça touche bien évidemment notre système social, ça touche l'organisation de notre système public, ça touche les territoires. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui en France un secteur marchand qui produit la richesse, ce sont nous, les PME, et vous avez un secteur public qui est devenu pantagruélique, qui fait que pour, eh bien, nous n'arrivons plus à créer assez de richesse pour tout simplement équilibrer la juste solidarité que nous devons à nos concitoyens. Et là, quand nous avons une pression fiscale telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a plus aucun levier sur les impôts, reste le travail.
Oui. Bon, après, ça reste quand même un projet urgent avec un taux de chômage qui remonte. On est à 7,5, on s'éloigne très largement du plein emploi.
Le gouvernement a dit que c'était un projet urgent, mais bon, parce qu'il cherche des projets.
Et pour vous, non, Jean-Marc?
Ah non, je ne crois pas. Ce qui est urgent, c'est effectivement de définir un plan stratégique qui permettrait de rééquilibrer les finances publiques. Le gouvernement, le pays est coincé. Il ne peut plus augmenter les impôts. Les impôts sont au maximum. Il ne peut pas baisser les dépenses publiques parce qu'à chaque fois que vous interrogez un député, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou de gauche, il n'a aucune idée pour baisser les dépenses publiques. Il a simplement une idée pour les augmenter. Je voudrais savoir quel est le montant des augmentations qui ont été suggérées à Bruno Le Maire cet après-midi, puisqu'il a réuni le maximum de parlementaires. Il faut vraiment changer le logiciel. Et le seul logiciel qu'il faut sortir, c'est un logiciel d'efficacité des services publics, d'efficacité des dépenses publiques, puisqu'on ne peut pas, les amputer. Donc il faut rendre plus efficaces. Et pour les rendre plus efficaces, eh bien, il faut leur introduire des outils de management que ma voisine connaît beaucoup mieux que moi, parce qu'on les apprend dans les écoles de commerce.
C'est ce qu'on fait dans une entreprise.
C'est-à-dire ce qu'on ferait dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on introduit de la concurrence, on sort des produits nouveaux, et puis peut-être qu'on se déleste d'un certain nombre d'activités qui sont pas strictement indispensables.
Franck Dodieu, est-ce que vous dites aussi manœuvre politique pour récupérer quelques milliards finalement dans cette histoire
Manœuvre politique pour récupérer quelques milliards, effectivement, parce qu'on a parlé du volet dépenses, on a parlé du volet impôts. On se tiraille entre ceux qui disent bah non, il faut plutôt baisser les dépenses, aller plus loin sur cette voie. Et puis ceux qui disent, non, attendez, il y a des impôts à augmenter. Après tout, nous sortons du Covid avec des nouvelles fortunes qui se sont constituées, avec de la surépargne tout de même. Et donc, il faut jouer sur les impôts. Tout de même, cela intervient quelques mois après la renégociation du pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'on avait mis entre parenthèses l'histoire des 3% de déficit public et de 60% de la dette.
Au niveau européen.
Au niveau européen. Ouais. Et puis là, à partir du moment où on referme la parenthèse, considérer qu'elle doit être refermée du quoi qu'il en coûte, on réouvre une parenthèse qui était celle du pacte de stabilité. Il se trouve qu'il y a eu un bras de fer entre les Allemands et les Français, entre Bruno Le Maire et son homologue allemand, et qu'au final, ce sont les Allemands qui ont réussi à imposer l'idée qu'il fallait à nouveau introduire un pacte de stabilité et surtout proroger l'idée même d'austérité. Là où, je dirais, il y a un autre levier sur lequel on peut agir, on peut agir sur le volet dépenses, on peut agir sur le volet impôts, mais le péché originel de ce plan de rigueur, c'est le terme.
C'est-à-dire
qu'il faut, dès 2027, être à 3% de déficit public. Et donc, vous avez renégocié un pacte qui vous oblige à des cures d'austérité très puissantes.
Oui, mais ce pacte, vous le savez bien, Franck, il est en train d'être revu, il est en train d'évoluer. Et les 3%, ça ne va plus vraiment être le curseur déterminant, mais plutôt la trajectoire.
On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous êtes quand même sur, certes, une trajectoire, mais un point d'arrivée
qui est les 3% à courte échéance.
Enfin, pour le moment, tout le monde dit, dont les agences de notation, la Cour des comptes, que de toute façon, c'est absolument injouable.
Ah bon, ben alors, donc vous voyez bien, si ça, on va exactement faire le coup de 2011. C'est-à-dire qu'avec Merkozy, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, on disait, non mais en 2011, vous allez voir, on a fait beaucoup de dépenses pour les subprimes, mais vous allez voir, on va vraiment mettre des sanctions, on va y aller à la dure,
mais
et donc là,
existé.
On va, et ça n'est jamais
de
arrivé.
De toute façon, on n'a jamais respecté mieux. Aucun objectif
et
des pactes
pourquoi
de stabilité.
Parce que si vous respectez l'histoire du déficit public à horizon 2027, ça veut dire que vous entrez dans des cures d'austérité très puissantes. Je veux dire, il faut que vos auditeurs et vos téléspectateurs
avec
comprennent
plusieurs dizaines de milliards d'euros à aller chercher pour atteindre cet objectif.
Voilà, donc il va y avoir des budgets très, 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 très serrés. Qui vont induire, et c'est là où on est vraiment au cœur du problème, c'est que cette cure d'austérité à une échéance si courte produit une dépression économique. Et donc, vous avez votre fameux ratio dette sur PIB qui est l'alpha et l'oméga.
5,5%, c'est quand même énorme. Enfin, il faut bien le résorber.
Mais le maire nous répète encore à partir de la masse sur le cœur qu'il fallait aller atteindre 3%.
Normalement, ce débat-là devrait être un marqueur politique. Et vous vous apercevez bien qu'il n'est pas un marqueur politique puisque finalement, en dépit des débats dont Franck nous fait le détail, tout le monde est à peu près d'accord, y compris l'opinion publique,
ça n'arrivera
pour
jamais.
Continuer à la fois de dépenser tout l'argent qu'on dépense, tout le monde est très content. Je vous rappelle quand même que si vous regardez le programme de l'extrême droite, c'est 50 milliards de dépenses en plus, le programme de l'extrême gauche c'est autant, et puis entre les deux on
oui,
est
enfin,
en
plus. Ils n'ont pas encore été élus. Hein,
donc, non, ils n'ont pas encore été élus, mais leur proposition est j'ajoute à ça que la soutenabilité de la dette se fait sans aucun problème. Oui. Les agences de notation vont sans doute nous dégrader mais ça ne bougera
et
absolument
pas. Et on va perdre 3 points de base. Alors à quoi bon?
C'est bien pour ça.
Mais
il n'y en a pas de cure d'austérité.
À quoi bon? C'est que cette situation-là favorise le laxisme et le mauvais fonctionnement des services publics.
On vise un moindre mal.
Ce qui est grave dans ce pays, ça ne marche pas.
Personne n'a aucun intérêt, et surtout pas le gouvernement, à continuer à pousser ce tas de sable, parce que si on est dégradé, on va avoir une charge de la dette qui coûte déjà un fric colossal et qui va coûter encore plus cher.
Oui, alors là, les histoires d'agences de notation, enfin, c'est pour ça, je pense que là, vous nous avez fait de la science-fiction, parce que j'aimerais bien voir où sont les cures d'austérité en France, je ne les ai pas vues très souvent, et je ne pense pas à quel point trop non plus le bout de leur nez avant. Et le problème, après, c'est qu'effectivement, éventuellement, si vous avez une dégradation, potentiellement, on peut avoir une augmentation de la charge de la dette, mais ce n'est même pas dit que ça arrive tout de suite.
Est-ce que le gouvernement une croix là se dit finalement l'agence de notation, dégradation ou pas finalement.
Oui, de toute façon, ça ne changera pas grand chose. Le seul truc qui est vrai dans cette histoire, c'est que je ne pense pas qu'effectivement ils aient choisi la bonne bataille. C'est-à-dire que compte tenu de la situation du marché de l'emploi aujourd'hui, je ne pense pas que continuer à travailler sur les conditions d'obtention du chômage ou de la durée du chômage ce soit une bonne voie pour pouvoir en fait améliorer de façon générale l'activité économique et aussi la gestion du chômage.
Oui, mais c'est un message envoyé aux agences de notation.
Audrey, on est quand même tous d'accord sur cette table et je m'en réjouis, mais quelque part je suis surpris sur le fait que d'être à nouveau sur cette échéance très courte de 2027 avec une volonté de granit de rester sur ces 3%. Alors vous pouvez dire finalement c'est de la communication.
Non mais c'est un chiffon rouge hein.
Ce qui va arriver, c'est un risque de récession, mais vous ne dites pas la vérité.
Ah bah, on n'est pas loin de la récession, Franck a raison.
Bah oui, au niveau européen, au niveau européen et au niveau occidental. Oui.
Enfin, en dehors des États-Unis,
vous mettez 50 milliards de plus chaque année d'économie sur un pays qui est
par les récessions en Allemagne, je suis d'accord.
Allez.
Pour des raisons structurelles. Par les récessions en Grande-Bretagne, je suis d'accord. Ils ont déjà les pieds dedans. Mais tant que vous aurez une masse d'épargne, une masse d'épargne liquide, disponible, qui est supérieure à notre endettement, vos agences de notation, eh bien, elles n'auront pas beaucoup d'importance. Vous trouverez comme au Japon, vous trouverez comme au Japon la capacité
d'emprunter. La situation n'est pas brillante au Japon.
Envie de devenir le Japon.
Voilà, on est bien d'accord.
C'est parce que vous avez l'intervenant de marché hier qui disait, rappelez-vous, quand le 5 août 2011, les États-Unis ont perdu leur triple A, on s'imagine imaginer que ça sera...
Ça n'a aucun impact.
On verra bien. On verra. C'est dans un mois que Fitch et Moody's vont ouvrir le bal. 19h32 sur BFM Business. Ben, je vous donne les grands titres de l'actualité ce soir. Donc Sam Bankman-Fried, je vous le disais, l'ancien patron de FTX, star déchu des cryptos, condamné à 25 ans de prison, entre autres pour fraude, blanchiment et conspiration, est accusé d'avoir détourné 8 milliards de dollars issus des fonds des clients de sa plateforme depuis 2019. Grosse réunion, on en parle effectivement cet après-midi à Bercy avec Bruno Le Maire, Thomas Cazenave et des parlementaires pour discuter des moyens de trouver de nouvelles économies pour cette année, mais aussi pour commencer à brainstormer sur le budget 2025. Vous savez, Thomas Cazenave a prévu au moins 20 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Le patron de Thales, qu'il a dit ce soir sur BFM Business sur le plan industriel, il n'est toujours pas intéressé par les activités cybersécurité d'Atos qui n'ont plus de repreneur potentiel depuis l'arrêt des discussions avec Airbus il y a de ça quelques semaines. Xiaomi, numéro 3 mondial du smartphone, qui se lance dans le véhicule électrique, on va en parler dans un instant. Et il a présenté ce matin à Pékin son premier grand modèle qui s'appellera le SU7. Et puis journée encore absolument catastrophique pour le titre Casino qui était suspendu hier. Car commencer à coter aujourd'hui est pas pour rien puisqu'il a perdu 63% à la Bourse de Paris. Le titre ne vaut plus que ce soir que 4 centimes. À peine, 19h33, on revient nous bien sûr dans un instant.
Et avec des bonnes nouvelles, une fois n'est pas coutume, oui. On va parler nucléaire, à tout de suite.
Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, Nathalie Janson, Franck de Dieu, Jean-Marc Sylvestre sont avec nous. J'en parlais tout à l'heure, des bonnes nouvelles. Alors ça y est, l'EPR de Flamanville va être opérationnel d'ici la fin de l'année. Alors c'est ce qu'en tout cas EDF nous disait ce matin. Donc ça y est, le nucléaire français repart. Franck de Dieu.
Enfin, je pense.
Alors on a 12 ans de retard.
Je laisse mes co-débatteurs parler des 12 ans de retard, parler du budget multiplié par 4, parler de l'État actionnaire qui gère très très mal. Moi, je voudrais.
Tu vois, une surprise de ce côté.
Moi, je voulais pour une fois me projeter dans l'avenir et de se dire voilà, ça marche, techniquement, ça va marcher. Quelle est la capacité d'EDF à exporter ce savoir-faire et à faire que la France soit une puissance nucléaire pour elle-même,
ouais.
Sa capacité à servir les Français, mais également pour vendre ce savoir-faire à l'extérieur. Alors évidemment, il y a une Kelpoint qui est un contre-exemple, mais je crois encore à la capacité d'EDF et à l'expertise française pour cela.
Avant de l'exporter, est-ce que l'autre sujet, ça va pas être d'être capable d'être en position de force pour construire les 6 EPR qu'on doit construire d'ici 2050, sachant qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre aujourd'hui en matière de nucléaire.
C'est là où je...
C'est le GIFEN, le syndicat de la profession, qui disait il y a quelques mois, il va falloir trouver et former 100 000 personnes dans les prochaines années.
C'est là où je suis un petit peu inquiète sur l'optimisme sur la vente de l'expertise.
Et on parle de formation qui n'existe pas encore.
Exactement,
pour
c'est pour ça.
Aujourd'hui,
oui, oui. Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'en fait,
il faut reconstruire une filière.
Oui. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas été assez convaincus qu'à un moment donné, c'était. Enfin, c'est vrai que parfois, ça fait quand même sourire. J'ai été les dernières années bercée par il y a des cancers, il y a des machins. Enfin bon, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et puis là, maintenant, on n'entend plus parler de ça. Et maintenant, on dit le nucléaire, c'est génial. Donc bon, moi, je veux bien. Il y a pas de problème. Mais effectivement, on a eu un manque de conviction par rapport à ce qu'on pensait être le nucléaire, puisque on est revenu, puisque sinon, on aurait formé et on aurait développé une filière.
Et ça a joué déjà dans les retards de
bien sûr, complètement. Et c'est ça qui est désolant. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'État n'est pas très bon.
Enfin, un manque de conviction, on a aussi cédé par manque de courage.
Mais oui, mais quand même, c'est un sujet délicat. Si vous voulez, c'est aussi sur des débats scientifiques. Moi, qui suis-je pour dire que le nucléaire, c'est moins bien ou moins bon? J'en sais rien. Enfin,
mais ça ne s'est pas joué sur des débats scientifiques. Les grandes décisions, elles se sont prises sur des coins de table, sur des bases idéologiques.
L'abandon d'investir, l'abandon de créer des formations, ça a été une décision politique avec des marchandages parfois même partisans au plus haut niveau. C'est malheureusement pas une question qui s'est traitée de face sur la fission nucléaire, où là, effectivement, moi, je ne me sens pas beaucoup la compétence pour apporter quelque chose sur cette question.
On ne trouvera pas 100 000 personnes à former, qu'on puisse former dans les 10 prochaines années.
On a 300
150 000 chômeurs.
Oui,
le 3 millions d'emplois pour voir 3 millions de chômeurs.
Le premier de ces EPR devrait être opérationnel en 2035. Alors on commence à venir 2036, 2037. Ça paraît mission impossible, Jean-Marc.
Il y a ChatGPT, c'est bon, heureusement.
Quand on veut, on peut.
Oui, d'accord.
On a bien réussi à faire la première phase du nucléaire. La première phase, elle a été triomphante pour la France, tout ce qui a suivi le général de Gaulle. Et là où Franck Dedieu a raison, c'est qu'il faut absolument en faire un deuxième et qu'il faut absolument retrouver le savoir-faire commercial pour pouvoir les implanter à l'étranger. Non seulement c'est très important sur le plan industriel, mais c'est primordial pour la sécurité. Parce que moi, on m'a expliqué qu'à partir du moment où il y avait un défaut dans une centrale nucléaire, si toutes les centrales nucléaires étaient fabriquées du même modèle, on corrigeait le défaut sur toutes les autres centrales nucléaires au même moment. On gagnait beaucoup de temps. Le drame du nucléaire américain, c'est qu'il est fait avec deux ou trois sources différentes.
Oui, c'est ça, parce que là,
les Chinois n'ont choisi que deux solutions. Solution française et puis une solution mixte avec les Allemands. Donc, il faut absolument qu'on avance. Mais c'est impressionnant quand je vois la capacité de production électrique de l'usine de Flamanville à partir du mois d'août. On va pouvoir approvisionner en électricité une ville de 2 millions d'habitants.
Oui, absolument.
C'est génial.
À quel prix? Vous dites 13 milliards, enfin, chiffrage de la Cour des comptes dit plutôt 19 milliards, ça se trouve. Voilà.
On va dire que c'est un investissement recherche. Oui, on est passé de 3 à...
Oui, Franck, pardon.
À 19.
Non, je dis simplement qu'il y a des grandes réussites qui ont pris du temps, qui ont commencé par des échecs, et puis qui se sont révélés... regardez Apple, hein. Il y a eu un passage à vide d'Apple.
Bah, sauf que c'était de l'argent privé quand même. Petite différence.
Oui, mais non. Le parallèle est intéressant. Apple, on peut parler de Amazon. Amazon a perdu des centaines de millions
de dollars. Pareil, c'est de l'argent privé.
Non, on est bien d'accord. Mais enfin, à partir du moment où
c'est un actif pour la France, c'est un actif pour les citoyens aussi.
Voilà,
d'avoir une indépendance énergétique, une indépendance nucléaire.
Ça n'a pas les mêmes coûts. Enfin, je veux dire, ça n'a pas tout à fait les mêmes coûts.
Non, mais on n'est pas les seuls. Les Finlandais ont eu aussi 12 ans de retard et des dérabâches financiers absolument colossaux, Jean-Marc.
On peut dire que c'est de l'argent public, mais c'est de l'argent public investi. Moi, je préfère investir 20 milliards, même si c'est énorme, plutôt que 20 milliards dans l'appareil de santé ou dans l'appareil d'éducation nationale.
Le coût des 6 prochains EPR, il va quand même assez élevé. C'est sûr qu'il dépasse les 70 milliards désormais.
Je ne serai pas aussi...
Sur un demi-siècle.
Oui, sur un demi-siècle.
On souhaite le
affirmative.
Apple, c'est ça que je voulais dire.
Exactement.
Bon, est-ce que vous êtes enthousiasmé par l'arrivée de Xiaomi, numéro 3 mondial du smartphone, acteur chinois, bien sûr, sur le domaine de la voiture électrique? Ils ont fait une conférence de presse ce matin, ils ont tapé comme des sourds sur Tesla en se posant vraiment comme adversaire de Tesla sur le marché domestique chinois. Multiplication des acteurs chinois dans l'automobile. Est-ce que vous craignez-vous aussi la grande déferlante qu'on nous promet depuis des années en Europe, notamment sur le secteur de véhicules électriques?
Je crois que les Chinois aujourd'hui sont dans une situation compliquée et difficile, y compris leur chef d'entreprise. Donc ils tapent fort, ils ont raison parce qu'ils veulent se faire entendre fort. Mais quand on voit l'ambiance qu'il y a actuellement, il va se terminer ce soir, le grand Davos asiatique. Il est entièrement consacré pour les Chinois à convaincre les Occidentaux qu'il leur faut absolument acheter les excédents de production qu'ils ont. Ils débordent de stock, ils débordent d'excédents de production, de capacité de production. Ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont pas osé ouvrir leur marché intérieur comme ils l'avaient plus ou moins promis, pour des raisons politiques, je crois, en partie. Mais ils sont, de ce point de vue-là, un peu débordés. Ils s'aperçoivent que la mondialisation a un peu changé, que le vent a un peu tourné, qu'on délocalise. Les Américains relocalisent également. Et puis, après tout, ils se retrouvent aussi face aux pays émergents qui ont bénéficié d'un transfert d'activité. Les Indiens, tous les pays d'Asie, le Mexique. Je dis, mais nous, on est capable de faire à pas trop cher ce que vous faisiez auparavant. Et c'est plus simple et c'est plus facile pour les Américains d'importer du Mexique des produits à pas prix.
Bon. Enfin, là, ceci dit, parce qu'on parle de Xiaomi, mais on a aussi Samsung qui se lance.
La deuxième chose, c'est que leur deuxième deuxième axe, c'est de garantir la loyauté des contrats, ce qui prouve qu'auparavant, il ne la garantissait pas.
Ça, c'est
et la sécurité
chose.
De la logistique.
Ouais.
Ça veut dire, alors, quid de la guerre de Taïwan, il n'en a pas été question.
Ah bah non, bien sûr que non. Mais enfin, là, on voit bien que l'ensemble des acteurs chinois se lancent dans la filière et dans le secteur. Samsung, Huawei aussi, ça va être une espèce de véritable guerre des tranchées qui va tirer les prix vers le bas.
Avec la prévision de l'exporter en Occident, puisqu'on n'a pas les batteries. Hein. Et l'Occident, ben, vous voyez ce qui se passe, le G7...
Enfin, en Occident, dans le monde entier.
Dans le monde entier, mais les pays du G7, notamment, qui sont les premiers concernés, parce que ce sont les premiers importateurs de produits chinois, ils sont en train de préparer une remontée des droits de douane, un peu comme il y avait au début de
la... Avec des représailles chinoises qui ont été laissées par le gouvernement.
Est-ce que ça coûte droits de douane qu'on va lutter contre la marche inexorable de l'histoire, qui est effectivement la déferlante de véhicules chinois en Europe,
Nathalie? Bah, il y aura la déferlante chinoise si on n'est pas capable d'en faire. Mais on sera capable d'en faire.
Bah, on a commencé déjà.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait un centre de l'histoire qui est celui du libre-échange et de la mondialisation et de la fin des droits de douane. C'est une décision. Il est des circonstances où on peut les augmenter, d'autres où on peut baisser des barrières douanières. Ce que dit Jean-Marc est important. Ah. C'est-à-dire que vous avez la Chine qui a des excédents de production qu'il faut écouler. Et il y a quelques années de ça, on en avait débattu d'ailleurs ensemble, on s'était dit, mais finalement, la crise de la mondialisation, elle va offrir la possibilité pour la Chine d'être dans une politique de demande intérieure.
Non.
C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez un marché de 1,3 milliard d'habitants qui accède convenablement à la classe moyenne, eh bien, vous avez de quoi écouler des stocks d'iPhone, de smartphones, de voitures électriques, etc. Il se trouve que la Chine n'a pas pu faire cette
chose. C'est bien son drame.
Elle n'a pas pu. C'est aussi notre drame. Pourquoi ? Parce qu'elle elle ne l'a pas fait, à mon avis, parce qu'elle a voulu maintenir des salaires, des coûts salariaux trop bas. Sauf sur la côte Est, où là, effectivement, et on en a largement parlé, en disant, regardez, ça devient... Mais à l'intérieur des terres, vous avez quand même encore des contrées où il y a des coûts salariaux très bas, et la Chine va en profiter pour exporter, c'est-à-dire avoir une politique mercantiliste. À ce moment-là, elle aurait dû, et nous aussi, Européens, aurions dû la pousser à choisir non pas une politique mercantiliste d'exportation, mais une politique de demande intérieure, comme les pays occidentaux dans les années 60.
Elle a tenté ça pendant 10 ans.
Exactement. Et donc, si vous voulez, alors c'est pas terminé, mais il faut compter là-dessus. Il faut compter là-dessus parce que on ne peut pas avoir un monde où il y a une usine du monde, cette expression est un peu galvaudée, mais qui est exacte, et qui exporte au détriment d'une classe moyenne reste du monde.
Alors Nathalie, parlons de la classe moyenne. Est-ce qu'on peut voir ça aussi comme une bonne nouvelle, ce trop-plein d'acteurs qui se lancent dans le secteur? Parce que là, notamment, Xiaomi annonce que, alors que la Tesla vaut 31 000 euros, leur voiture n'en coûtera que 27 000. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs.
Oui.
De toute façon, c'est bien sûr qu'on va avoir une concurrence avec les voitures chinoises. De toute façon, ils y vont par spécialisation. Donc là, on a bien compris que c'était le tout électrique et qu'ils sont allés à fond là-dedans. Donc en fait, ils utilisent en plus, il y a une espèce de spécialisation dans l'innovation, quoi. Oui. Donc là, on voit bien que l'arrivée d'acteurs qui sont pas des acteurs automobiles dans le secteur de la voiture électrique, elle vient aussi de l'importance des données dans une voiture, donc c'est pour ça qu'effectivement Xiaomi tente aussi l'aventure. Et mais au-delà de ça, le modèle chinois, c'est pas juste le fait qu'ils maintiennent des salaires bas en Chine, hein, faut pas, c'est un peu plus compliqué que ça. Le développement chinois, il y a un refus d'avoir adopté un système à l'occidental, avec un état en fait qui va avoir un welfare state. Ils n'en veulent pas. Je crois qu'il a été assez clair comme ça, le président chinois. Il ne veut pas de ce type de modèle. Donc, de toute façon, un Chinois, ça épargne. Et donc, voilà, quoi. Donc, ça, comme ça épargne, bah, forcément, il y a une limitation.
Aussi.
Oui, mais à côté, c'est de la gnognotte. Effectivement, comme ils deviennent vieux, il y a beaucoup d'autres facteurs qui expliquent le fait qu'effectivement, la Chine a donc une espèce de nécessaire ouverture de ses ventes sur d'autres pays du monde, parce qu'il a un modèle qui en fait tourne en rond. C'est-à-dire qu'il aurait pu être autrement, mais le autrement, il ne sait pas le gérer. Pareil, il aurait pu se développer en ayant, avec des financements plus importants au niveau de l'économie, mais ils ne sont pas allés là-dessus. Leur marché financier est resté embryonnaire, ils ne laissent pas entrer les capitaux étrangers. Enfin, veut dire, voilà, il y a plein de choses qui expliquent l'état du marché chinois, et c'est vrai que du coup, la porte la plus évidente qui était celle d'avant et qui continue d'être celle qu'ils veulent poursuivre, c'est celle de l'exportation. Mais ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle, même pour les Chinois.
Le seul secteur sur lequel ils se sont ouverts, c'est l'immobilier. Ils ont ouvert l'immobilier, ce qui fait que l'épargne chinoise
est allée là-dessus.
Et elle s'est engouffrée sur l'immobilier, et on est aujourd'hui dans une pleine crise de spéculation immobilière avec des crédits qu'on ne peut pas invoquer. Mais pour en revenir sur la voiture automobile, moi je trouve qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je pense que les jeux ne sont pas faits parce que le consommateur, il n'a pas l'air d'en vouloir de la voiture électrique, chez nous du moins, et dans les pays occidentaux.
Ce sera aussi notre capacité à faire baisser les prix des véhicules électriques.
Mais il n'y a pas que chez nous.
Mais la capacité à faire baisser les prix, ça dépend
beaucoup. On ne peut pas tout à fait dire, Jean-Marc, que le consommateur français ne veut pas de la voiture électrique.
Il se précipite pas dessus.
Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'équipement de l'ensemble du territoire avec les bornes électriques, et là, on commence à rattraper notre retard, et les ventes augmentent.
Bon, ceci dit, il y a plein d'autres problématiques. Vous voyez bien, aux États-Unis, il y a le loueur Hertz, il est bien revenu sur sa politique de tout électrique.
Bien, deux minutes avant vos avis du soir. Alors, on va regarder le CAC 40. Tiens, on voulait vous montrer le niveau du CAC 40 ce soir. On voulait dire un petit mot. Voilà, 8205 points, est allé taper un nouveau record historique à 8253 points. 30 secondes chacun, un avis. Est-ce qu'on est toujours dans l'exubérance irrationnelle des marchés, ou est-ce que tout ça un sens, Franck, comment est-ce que vous...
Moi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, je pense que ça peut durer. Non, mais ça peut durer parce que je me demande si, quand même, de faire cohabiter une situation financière qui bat des records en records avec une récession partout, hormis peut-être aux États-Unis. Ça veut quand même dire qu'ils ont peut-être inventé une forme de martingale pour toujours augmenter leur marge, même en période de récession où vous avez une stabilité, une stabilisation du chiffre d'affaires. On en avait parlé la dernière fois. Chiffre d'affaires qui stagne, profit qui augmente. Donc il y a une sorte de martingale pour toujours faire augmenter les marges, pour toujours aller chercher plus loin les bas coûts salariaux de degré en degré. Et puis aussi ce fameux pricing power qui consiste à grossir pour avoir une maîtrise sur les prix et ne pas faire trop de mal à sa marge. Donc il est possible que vous ayez une phase historique où cohabite une finance florissante et une économie réelle qui est au désarroi. Alors, jusqu'à, évidemment, peut-être la fin qui est...
Non, mais c'est quand même bon pour l'économie, Jean-Marc.
Un bémol à tout ça, parce que je pense pas que le CAC 40, il fonctionne avec les bas salaires en Asie et tout ça. Il fonctionne avec le price.
Alors certains,
le CAC 40 fonctionne avec, avec l'industrie du luxe, qui n'est pas faite avec les salaires de
l'éthique.
Il fonctionne avec l'énergie, avec l'aéronautique, l'armement. Et puis un peu de service, parce que vous avez des sociétés d'assurance qui se débrouillent pas trop mal. Donc ils sont sur des marchés forts et des marchés stables et forts. Moi, ce qui me gêne le plus, si vous voulez, c'est qu'ils travaillent essentiellement à l'étranger, 90% de leur chiffre d'affaires, que leur capital est principalement détenu par des fonds de pension étrangères, c'est-à-dire qu'on nourrit là avec des entreprises françaises des retraités anglais, américains.
C'est chouette.
Et c'est chouette pour eux.
C'est là où ça se passe, Jean-Marc.
Nous, pendant ce temps-là, on a des fons de retraite par répartition.
Ce phénomène effectivement est assez intéressant parce que on aurait pensé que les indices allaient peut-être baisser, et finalement c'est peut-être aussi parce qu'il y a toujours des liquidités qui circulent, donc voilà, c'est simplement le fait que les liquidités qui n'ont pas encore totalement été asséchées malgré la hausse des taux d'intérêt.
Il y a une épargne colossale dans le monde.
Oui, et il y a aussi beaucoup d'épargne.
Non, mais c'est vrai que ça dénote des indicateurs macroéconomiques et d'une conjoncture éco un peu morose.
Allez, 3 minutes avant la fin, c'est l'heure de vos avis. Coup de cœur, coup de gueule, l'extra time, comme on dit ici sur BFM Business. Vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes chrono. Allez, Franck, vous voulez commencer? 30 secondes.
Alors, moi, ça sera plutôt un coup de chapeau à la Floride, qui, c'est une loi qui proscrit chez les jeunes de 14 ans, les moins de 14 ans, d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Wow. Je dois avouer que c'était Pew Research qui a sorti une étude selon laquelle un ado sur 6 est presque constamment sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça, c'est presque de nature anthropologique, quoi. On est en train de créer des individus qui ont un rapport à la lecture, un rapport au savoir, un rapport à l'information.
Et puis un rapport aux autres.
Et un rapport aux autres, bien sûr, qui sera très biaisé.
Interdit au moins de 14 ans.
Mais c'est pas un coup de cœur, ça, alors?
Coup de cœur pour la Floride.
Bon allez, tiens, puisque vous parlez, Jean-Marc.
Oui, alors j'avais failli vous parler de la marine à voile, parce que l'État relance, elle a mis 1,5 milliard dans la relance de la marine à voile cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça m'a... Mais je voulais surtout vous parler que ce soir, c'est l'anniversaire des 15 ans de l'auto-entrepreneuriat en France.
Oui.
L'auto-entrepreneuriat, c'est 2 700 000 auto-entrepreneurs. Alors, certains vont dire, il y en a beaucoup qui disparaissent, mais il y en a autant qui se créent chaque année, donc à peu près on progresse de 10 à 12% par an. 25 milliards de chiffre d'affaires, hein, ça fait 15 ans, c'était notre ami Hervé Novelli qui vient,
qui ben vient
il est venu nous en parler,
voilà, il est venu vous en parler, c'est ce soir.
Ben voilà, c'est un bel anniversaire.
Salut.
Nathalie Janson.
Bon, ben je vais finir avec un coup de gueule quand même. Alors moi, c'était contre les propos tenus par un député LFI sur le fait que l'État n'a jamais été aussi riche en encaissant 200 milliards de TVA et que l'État confisque, en faisait disparaître 100. Et j'ai trouvé que c'était une manipulation de chiffres absolument éhontée. Et je trouve ça vraiment très regrettable, parce que ça n'a rien à voir avec la manipulation de chiffres. C'est tout simplement que entre la TVA ne va plus financer directement les dépenses de l'État, mais finance d'autres dépenses des collectivités locales. Enfin bon, bref. Et j'ai trouvé ça honteux de manipuler à ce point-là les chiffres.
Ben voilà, vous avez raison de le dire. Ce soir de Nathalie Janson. Ben, c'est terminé. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Nathalie Janson, Jean-Marc Sylvestre et Franck Dedieu. On remonte la une de Marianne cette semaine.
Les va-t-en-guerre.
Les va-t-en-guerre, Russie, Ukraine, politique, médias, experts. Nous aussi, on en prend pour notre grade. Donc les médias en prennent.
La France gagnante ou la gagnante ou perdante de l'Europe?
Alors, ben, un débat, je vous suggère quand même de lire 5 pages.
Pour connaître la réponse, il faut acheter le magazine.
Voilà. Et moins cher.
Moins cher. 3,50€.
Il est comme dans la grande distribution.
Ah, voilà.
Oui. Il baisse le contenu.
C'est les soldes.
On ne baisse pas le contenu. Le contenu est toujours aussi intéressant.
C'est l'inverse de la
Mais concentrant en moins de pages.
Mais le prix est en baisse.
Oui, c'est vrai, j'ai remarqué.
Voilà les deux, madame Marianne. Merci à tous les trois. À très vite pour nouvelles aventures. Avec grand plaisir, 19h55. C'est fini.
Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Le débat est à retrouver quand même, bien sûr. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com en replay, en podcast, sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, on se retrouve demain soir.
Absolument, demain soir, 18h pour Nouvelles Aventures. Très bonne soirée à toutes et à tous. François Sorel, Tech & Co, bien sûr, dans un instant sur BFM Business.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.